Le ballon, le fameux ballon, un bon, beau, gros ballon, tout rond, à faire rêver les enfants, hein, mais en fait, un cauchemar pour le renseignement, un ballon météo, disent les Chinois. On n'est pas obligé de les croire, Fabrice Eppelboin.
On n'est absolument pas obligé de les croire, d'autant plus qu'apparemment, il y en a deux, et la plupart des...
au sud de l'Amérique latine.
Et la plupart des experts sur le sujet ont beaucoup de mal à croire que ce sont deux ballons météo qui sont perdus et qui sont là par hasard.
Ils maîtrisent comme les grandes puissances la plupart des... le spatial, le cyber, le renseignement humain. Mais là, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que ça pourrait d'ailleurs laisser que c'est une opération qui n'est pas véritablement voulue par le... partie chinoise, c'est que finalement ce ballon a dérivé assez rapidement au-dessus du Montana et finalement à une altitude qui était une altitude au sein de l'espace aérien américain, donc à portée de tir et surtout...
Il n'aurait pas maîtrisé, vous nous dites, ça nous paraît surprenant. Vraiment. Pourrait ne pas avoir
ce
maîtrisé
qui est
ce ballon.
Qu'il, il n'avait pas essayé. Avant, il était un petit peu plus haut. Il était au-delà des 18 km, là où il a été abattu. Et on peut imaginer qu'à 20, 21 km, même si dans l'affaire de l'U2 en 1960, le fameux avion espion de la CIA avait été abattu à une altitude d'à peu près 20 km, donc un petit peu proche de cette zone-là. Mais effectivement, on peut. En tout cas, on peut s'étonner, si vous voulez, que les Chinois aient été pris comme ça et passent un petit peu pour des amateurs.
Pris dans la foulée qu'il y avait une bonne vingtaine de ballons qui avaient été repérés par le Pentagone ces 10 dernières années et qui jusqu'ici n'avaient pas provoqué cet émoi dans la politique intérieure américaine. Là, c'est beaucoup un problème de politique intérieure américaine avec un petit jeu entre les démocrates et les républicains autour du ballon. Mais c'est de l'agitation politique pure.
Vous n'êtes pas d'accord, Stéphanie Balm?
De l'agitation politique pure, il y a de l'agitation politique, ça c'est certain. Et je pense que M. Blinken, qui devait partir en Chine,
le secrétaire
d'État américain, ne va pas y retourner tout de suite, parce qu'il va y avoir précisément de l'agitation politique interne, parce qu'il va falloir que la partie chinoise montre en fait quand même qu'ils ont fait des concessions à la partie chinoise, à la partie américaine. Mais là, du point de vue d'un sinologue qui regarde aussi le système politique chinois, c'est quand même étonnant de voir que la veille d'une visite aussi importante, après la multiplication de crises qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, notamment depuis la période Trump, ce ballon se balade au-dessus des États-Unis. Donc une des hypothèses, c'est précisément qu'il n'y a pas de communication entre le ministère des Affaires étrangères chinois et l'armée chinoise. Ça pourrait être une hypothèse importante.
C'est possible, ça ?
Ah ben c'est tout à fait possible.
Il y a aussi peu de communication entre les deux.
Ce qui est possible, c'est que ça relève. Alors pour le coup, si cette hypothèse est vraie, ça montre bien qu'en fait l'ultra-personnalisation du système politique chinois concentre complètement, l'organe de décision au sein du parti est une décision qui est uniquement politique et qu'il y a peu de communication avec la partie militaire. Donc ça pour nous, c'est une source de réflexion sur l'état du système politique chinois aujourd'hui.
Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est vraisemblable que l'armée pouvait, ou le ministère des Affaires étrangères pouvait ignorer ce que faisait l'armée. En revanche, si c'est une opération de provocation, de déstabilisation, on peut imaginer quand même que l'État chinois, et même Xi Jinping était au courant, c'est une opération d'ampleur. Et on voit que derrière, les divisions que ça crée au sein de la politique américaine avec les républicains qui accusent Biden d'avoir été lent, de ne pas avoir agi, voilà, ça peut être un des buts recherchés. Et si c'est une opération de provocation comme pourrait être le cas.
Et l'argument aussi qui est indiqué, qui dit qu'en fait l'armée chinoise est tellement sophistiquée, c'est une erreur aussi grossière n'est pas possible. Côté américain, on se rappelle le bombardement de l'ambassade de Belgrade, qui avait fait beaucoup de morts, c'était il y a une vingtaine d'années, et les Chinois sont persuadés que les États-Unis, de manière intentionnelle, ont bombardé l'ambassade chinoise à Belgrade. Or, il est très clair que les commissions américaines ont montré que c'était une erreur.
Donc, c'est-à-dire que des espions allemands qui viendraient en France. C'est pas la même dimension. Clairement, les grandes puissances ont une capacité à espionner qui est bien supérieure à des petites nations. Donc, les États-Unis et la Chine, en premier lieu, ont une vraie capacité d'espionnage. Après, c'est clair que les Chinois mettent le paquet sur l'Occident pour espionner tout ce qu'ils peuvent. Oui. En partie de l'espionnage industriel, c'est le nerf de la guerre, surtout en temps de paix. L'espionnage industriel permet de siphonner la création intellectuelle de toutes les nations. Or, toutes ces nations reposent de plus en plus sur de la création intellectuelle. La création intellectuelle, c'est avant tout, au final, des zéros et des uns sur un disque dur. Donc c'est là qu'on rentre dans la dimension cyber de l'espionnage, où là, les Chinois et les Américains sont les champions du monde.
En 2021, il avait dit que sur 14 opérations d'espionnage majeures menées en France, 9 étaient selon un mode opératoire chinois, donc c'était des données. Et le patron du FBI a aussi déclaré l'an dernier que toutes les 10 heures, une opération, une enquête de contre-espionnage lié à la Chine était ouverte par le FBI.
Toutes les 10 heures.
Toutes les 10 heures, oui.
Le moindre étudiant chinois potentiellement est un espion, hein, et il y a des multitudes de cas avérés, donc ça fait beaucoup de monde.
Effectivement, toute la question, faut-il bouter ces instituts, dont Confucius hors de France, c'est ce que réclament des collectifs, des associations, ils sont d'ailleurs soutenus par des élus, par des sénateurs notamment. Pour rappel, ces instituts, donc ils ont été fondés en 2004, ce sont des centres, donc fondés en 2004 pardon, par le Parti communiste chinois, ils sont censés faire rayonner la Chine à travers l'enseignement de la langue, l'organisation d'expositions, encore la projection de films, un peu comme l'Institut Cervantes pour l'Espagne ou le Goethe-Institut pour l'Allemagne, avec une différence majeure, c'est qu'ils sont très souvent, en tout cas en France, rattachés à des universités. Il y en a plus de 500 dans le monde, un peu moins d'une vingtaine en France, avec une grosse concentration en Bretagne. Et depuis quelques années, de plus en plus de pays poussent ces instituts à rendre des comptes sur leurs activités. Quand ils n'ont pas été purement et simplement fermés, ça a été le cas en Suède en 2015, le premier centre d'ailleurs Confucius qui avait été ouvert en Europe qui a fermé. La Belgique, elle, c'était en 2019, a interdit de séjour le directeur de l'Institut Confucius qui était installé sur un campus à Bruxelles. Il est soupçonné d'avoir recruté des agents d'influence pro-chinois. Il a d'ailleurs même été banni de l'espace Schengen. Et en France, l'an dernier, un rapport de l'IRSEM, de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, écrivait, j'ouvre les guillemets, que ces instituts pourraient également servir occasionnellement à faire de l'espionnage.
Je pense que s'intéresser aux instituts Confucius aujourd'hui comme source d'espionnage chinois, c'est un peu has-been, y compris de la part de l'Institut de l'IRSEM.
Pourtant, c'est ce que font les sénateurs, il y a eu des auditions.
Alors, d'abord parce qu'ils sont très peu nombreux, qu'il s'y passe pas grand-chose. Très honnêtement, dans les instituts Confucius, on fait l'équivalent du macramé de la culture chinoise, c'est-à-dire qu'on fait du papier découpé, on apprend de la langue, en la langue et de la cuisine.
Mais pardon, mais l'IRSEM se trompe quand il dit...
Alors l'IRSEM...
C'est un rapport de l'an dernier. Hein.
Bien sûr, ce rapport de 700 pages, très long, traduit en anglais, qui a fait le tour du monde, qui a été beaucoup commenté dans mon institution à Sciences Po, etc., dispose de parties qui sont totalement intéressantes et d'autres qui ne sont pas toujours du même niveau. C'est-à-dire que, voilà, donc en tout cas, les instituts Confucius, évidemment, sont à regarder de près, mais ce n'est pas là
où ça se passe.
Non, ce n'est pas du tout là. Alors, par ailleurs, il me semble que c'est vraiment important de le dire, c'est que je ne veux pas laisser dire que chaque étudiant chinois est potentiellement un espion. C'est-à-dire qu'il y a un écart, une différence de perception à avoir entre l'État chinois, le Parti communiste chinois et la société civile chinoise une partie. Et on a un bon exemple de ça, qui est que le gouvernement américain, sous Trump, a lancé une initiative qui s'appelle le China Initiative, qui visait précisément à lancer un coup de filet sur les universités américaines pour savoir s'il y avait ou pas des espions étudiants américains. Et on a maintenant le compte-rendu de cette mission. Ouais. 4 personnes ont été arrêtées, 28 personnes ont été inculpées sur l'équivalent de centaines de milliers d'étudiants américains.
Un nombre d'enquêtes considérable, effectivement, 99,9% n'aboutissent pas, Dieu merci, parce que des étudiants chinois, que ce soit aux États-Unis ou ici, il y en a une quantité invraisemblable.
Pour répondre un petit peu aux deux, moi je suis assez d'accord sur ce que vous disiez. C'est vrai que les instituts Confucius, c'est un peu la face émergée de l'iceberg finalement. C'est du soft power qui peut être, promouvoir la culture chinoise, mais c'est pas forcément là qu'il y a des choses très sensibles.
C'est où alors?
Moi, je pense que la force de la Chine, qu'elle a, c'est que c'est un État totalitaire et qu'elle a une diaspora importante en France, 30 000 étudiants. Bon, on parle beaucoup des buralistes, mais il y a une communauté très présente. Et c'est que quand la Chine veut avoir un document, une information, un brevet, il peut faire pression sur les Chinois, la diaspora présente en France, mais également ailleurs, et en lui demandant, si tu nous fournis pas...
Quand vous dites pression, c'est chantage.
Voilà, mais si tu nous fournis pas tel document, on va faire pression et on va menacer ta famille en Chine. Il y a eu des cas... donc la véritable force de la Chine, elle est là. Après, par rapport aux Russes, beaucoup moins. À cheville de la rue, il y avait du matériel d'écoute.
Important aussi de citer un rapport, le rapport d'un sénateur, le rapport du sénateur Gattolin, publié fin 2021. On a nombreux d'entre nous ont été auditionnés et qui montrent qu'en fait il existe d'autres sources, par exemple l'Académie des sciences sociales chinoises qui est sous la direction du Parti communiste chinois et qui essaye d'intégrer les programmes de recherche en sciences sociales des pays européens d'une part et d'autre part tout ce qui est données, en fait la Chine a besoin de données.
En tout cas, la question est bonne et complexe. Disons qu'il y a une sorte d'alali médiatique et géopolitique qui vient des États-Unis et de ses alliés, notamment le Royaume-Uni, qui est parti de Huawei. Et l'idée, c'est qu'on soupçonne, les Américains soupçonnent les constructeurs chinois de smartphones d'avoir des backdoors, donc des failles de sécurité qui permettraient de consulter ensuite des données. Il y a eu un cas de Huawei en 2018, le siège de l'Union africaine en Éthiopie avait été espionné comme ça. Et si vous voulez, il y a... il y a beaucoup de cas comme ça, et donc il y a un faisceau de présomptions. Je dirais qu'après, la limite à ça, c'est que la plupart des constructeurs peuvent aussi avoir des backdoors, que les Américains ont parlé...
Donc Apple, comme...
n'avait pas fourni au FBI, avait refusé de donner au FBI des données qui étaient comprises dans le téléphone. On peut très mal imaginer un constructeur chinois, Huawei, Xiaomi ou Oppo, dire ça aux autorités chinoises. Donc là, encore une fois, à mon avis, c'est une question d'État totalitaire face à un État démocratique et de ce qu'on peut faire.
La différence, c'est qu'effectivement, Apple a très lié son image de marque avec un certain respect de la vie privée, en tout cas en Occident. En Chine, c'est toute autre affaire. Les autres sont dans un flou complet. Donc les backdoors, il y en a malheureusement partout.
Les plateformes chinoises comme TikTok.
Alors ça, c'est très intéressant, les plateformes chinoises comme TikTok, parce que, alors d'une part, le TikTok chinois n'est pas le même que le TikTok occidental. Le TikTok chinois injecte des valeurs sur le travail, la communauté.
Donc c'est un lieu de propagande.
C'est un lieu de propagande. Ouais. Le TikTok occidental est un lieu de divertissement, avec énormément d'interrogations qui sont surtout l'occasion de nous poser des vraies questions sur le rôle de ces réseaux sociaux sur la société, sur nos démocraties. Le fait que les Chinois débarquent dans le secteur permet de faire abstraction d'une espèce de cécité face à la puissance américaine qui sont la première puissance.
Ce qu'il y a eu avec Facebook, par exemple.
Ce qu'il y a eu avec Twitter. Et il ne faut quand même pas perdre de vue que Facebook et Twitter ont fait dérailler deux dernières présidentielles américaines.
En tout cas...
Est-ce qu'il faut interdire TikTok ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Enfin, voilà, je vais répondre sur un point qui est la politique américaine à l'égard de la Chine sur TikTok comme sur d'autres choses. Est-ce que l'Europe doit s'allier à cette politique-là ou est-ce qu'on doit garder une forme d'indépendance ? Parce qu'on a deux faits. On est d'accord sur le fait que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la position très pro-russe de la Chine vis-à-vis de la guerre en Ukraine, la question de Taïwan, etc., sont des questions qui font que c'est un ennemi stratégique ou en tout cas un rival systémique considéré comme tel à la fois par l'Europe et les États-Unis. Mais il ne faut pas se laisser embarquer par les États-Unis aveuglément sur une politique stricte anti-chinoise systématique.
Mais pardon, est-ce qu'on n'est pas...
Sur TikTok, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, TikTok n'est pas plus dangereux que ne peuvent l'être, effectivement, parler de Huawei. Et d'ailleurs, on peut regarder que les États-Unis ont banni Huawei ZTE, Xvision, qui est un appareil de vidéosurveillance chinois. Nous, on a une approche un peu plus modérée, finalement, qui est de ne pas bannir officiellement Huawei parce qu'on garde des liens diplomatiques, économiques et qu'on n'a pas envie d'apparaître comme anti-chinois. Et pour rejoindre ce que disait Stéphanie Balm, aujourd'hui, nous, Européens, on ne peut pas forcément être dans la charrette américaine et du Royaume-Uni. On doit aussi créer une indépendance. Et je trouve que la ligne de la France à ce niveau-là est assez utile et intéressante, c'est-à-dire de mettre en avant et de dire que la Chine peut être un danger sur certaines choses. Je pense que l'espionnage dans l'entreprise, à l'université, il y a des accords entre des instituts chinois de défense avec des facs françaises, ça c'est gênant dans les universités françaises, et de voir effectivement les accords avec les facs chinoises liées à l'institut de défense, et ça c'est gênant. Oui. TikTok, je ne suis pas certain que ce soit le vrai problème aujourd'hui.
Sauf que, en perdu France, toute forme de souveraineté sur le numérique en général, très concrètement, le fait que TikTok soit pieds et mains liés avec les services de surveillance chinois, il n'y a absolument aucun doute, mais perdons pas de vue que depuis 2013, on connaît le programme Prism qui montre exactement la même chose avec l'appareil de surveillance américain. Et ces collaborations sont un fait. La violation de la vie privée des données TikTok, il n'y a absolument aucun doute, mais ne perdons pas de vue que les accords de Privacy Shield qui sont censés protéger la vie privée des Européens ont été négociés contre du gaz très récemment par la Commission européenne. Donc les deux se comportent de la même façon. Effectivement, ce n'est pas le même danger. C'est clair que la menace américaine n'est pas comparable à la menace chinoise, mais très concrètement, les deux représentent un danger pour la souveraineté européenne et la souveraineté française en particulier.
Merci.